VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par la course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis. Victoire écrasante de l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton aux élections primaires démocrates dans 4 États sur 6 hier, notamment la Californie et le New Jersey. Un succès qui lui permet d'entrer dans l'histoire. On l'écoute.
First time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des grands partis, a déclaré Mme Clinton, qui dispose désormais du nombre de délégués nécessaires pour devenir la candidate du Parti démocrate au présidentiel de novembre. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
L'investiture historique de Hillary Clinton ne sera bien entendu officielle qu'après le vote des délégués à la convention du Parti démocrate à Philadelphie au mois de juillet. Son rival démocrate, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, n'a pas encore jeté l'éponge. Il a reçu hier un appel du président Barack Obama, qui a aussi téléphoné à Mme Clinton, son ancienne secrétaire d'État, pour la féliciter. Dans son discours de victoire, elle a déclaré hier soir « Les ponts sont meilleurs que les murs », une allusion au projet de Donald Trump, son probable adversaire républicain en novembre, de construire un mur à la frontière mexicaine. Ce dernier, parlant plus tôt dans la soirée, a lancé une attaque énergique contre Mme Clinton, l'accusant de trafic d'influence quand elle était au département d'État. Selon les médias américains, Mme Clinton a déjà le soutien des 2383 délégués dont elle a besoin pour être investie à la Convention démocrate. Ils incluent les fameux 571 superdélégués qui sont libres de voter pour qui ils veulent.
Merci Jean-Roger. Pour le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlotteville, la victoire de Mme Clinton est une autre grande première après l'investiture et l'élection il y a 8 ans du premier Africain-Américain Barack Obama à la Maison-Blanche. L'explication du professeur Caesar au micro d'Idrissa Sedoudia.
C'est vrai, c'est un moment historique, c'est important et elle va mettre l'accent sur ce fait-là parce que ça joue très bien avec les votants qui sont femmes.
Mais tout n'est pas joué. Bernie Sanders, son rival démocrate, ne jette pas l'éponge. Il pense pouvoir convaincre les superdélégués qui devront voter à la convention du Parti démocrate. Est-ce que Bernie a des chances de convaincre ces superdélégués?
Alors, je dirais presque impossible. Il y a une possibilité, c'est la possibilité qu'elle va être accusée par le département de justice pour ce qui est arrivé avec les messages et ses problèmes avec l'ordinateur. Alors, je crois peut-être qu'il reste comme candidat plus ou moins actif en vue de cette possibilité. Et s'il est candidat actif, il aura une meilleure chance que s'il concède l'élection. Et donc, on peut dire que c'est cette possibilité-là qui reste la seule chance pour lui.
Pouvez-vous nous expliquer ce problème ou cette question des superdélégués par rapport aux délégués qui sont choisis pendant les primaires?
Alors, les superdélégués, ce sont des membres du parti, les gouverneurs, les maires, etc. Et l'important, c'est qu'ils ne sont pas engagés. Ils sont libres, selon les règles, de voter comme ils veulent. Donc, la plus grande partie de ces superdélégués, ils ont dit, par les sondages et par la discussion, ils ont dit qu'ils vont voter pour Hillary. Mais il y a toute la liberté de changer de revue. Ce qui est arrivé, en fait, il y a 8 ans, quand plusieurs superdélégués ont commencé en disant qu'ils allaient voter pour Hillary. Et puis, ils ont changé d'avis quand Obama a reçu beaucoup de voix dans les primaires. Donc, ils ont la possibilité de changer. Mais dans le cas que nous, aujourd'hui, c'est peu probable que ça va arrêter.
Le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlotteville.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'Afrique maintenant, ouverture aujourd'hui à Bruxelles d'un conclave de l'opposition de la RDC autour d'Étienne Tshisekedi. Toutes les tendances y sont présentes, Moïse Katumbi et son G7, la dynamique de l'opposition, d'autres plateformes et éventuellement Vital Kamerhe qui n'est pas encore arrivé dans la capitale belge. Le conclave va durer 2 jours et connaîtra aussi la participation de la société civile. On écoute Bruno Tshibala, porte-parole de ce conclave, qui nous parle des objectifs visés à Bruxelles.
C'est important de structurer, d'unifier l'opposition et la société civile qui est acquise au changement. Et donc il s'agira de comment rassembler l'ensemble de forces politique acquise au changement, comment arriver à, avec les avis, les observations de chacun, d'arrêter les stratégies pour arrêter la crise politique qui s'est vue au pays et conjurer le chaos qui se profile à l'horizon. Évidemment, il y a une procédure pour arriver à tout cela. Nous, nous sommes attachés au dialogue. Le dialogue fait partie de l'ADN de notre pays, de notre peuple. Et donc, nous allons aller au dialogue pour rechercher un consensus sur le processus électoral, mais dans le respect de notre constitution et des délais. Et voilà pourquoi nous sommes ici à Bruxelles.
Bruno Tshibala, porte-parole d'Étienne Tshisekedi et secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Centrafrique, un haut responsable de l'ONU, directeur des opérations sur le terrain auprès du haut commissaire pour les droits de l'homme, a démissionné de son poste pour protester contre la totale impunité dont jouissent des casques bleus qui ont violé des enfants en RCA. Le point avec Eric Manirakiza.
La nouvelle a été annoncée par l'ONG UN Watch dans un communiqué. Anders Kompas s'insurge contre tous ceux qui ont abusé de leur autorité. Il a également désapprouvé le manque de volonté de la hiérarchie d'exprimer tout regret. Selon lui, ceci confirme que l'ONU n'a pas l'habitude de rendre des comptes. Dénonçant donc la totale impunité, il a jeté l'éponge en regrettant qu'il lui soit impossible de continuer à travailler dans ces conditions. En 2014, le Suédois a favorisé la fuite d'un rapport confidentiel de l'ONU sur les abus sexuels dont sont victimes des enfants parce que l'ONU tardait d'agir. Le dernier rapport de Ban Ki-moon de 2015 a enregistré 69 cas d'agressions sexuelles. La MINUSCA en Centrafrique et la MONUSCO en RDC se sont illustrées en cumulant plus de la moitié des cas. L'ONG UN Watch a estimé que Ban Ki-moon et Zeid Ra'ad al-Hussein, le patron du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, doivent des excuses à M. Kompas, considéré comme héros dans sa tentative de protéger des enfants violés.
Au Tchad, menace de grève à la justice. Les magistrats donnent un délai de 4 jours au gouvernement pour retrouver les chefs militaires qui ont agressé leur confrère, juge de la paix à Bagassola, une localité située dans la région du lac Tchad, en février dernier, en plein exercice de ses fonctions. Ils dénoncent également le refus des services du Trésor de payer leur reliquat de primes et de rendement de l'année 2015. En cas de non-satisfaction de leurs revendications jusqu'au vendredi 10 juin 2016, ils vont observer une cessation de travail à partir du lundi 13 juin dans toutes les juridictions du pays. Au Niger, 3 journalistes nigériens sont emprisonnés pour avoir publié des documents relatifs à une fraude à un concours administratif impliquant d'importantes personnalités. Plus de détails avec John Lindon.
L'affaire de fraude révélée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et infractions assimilées fait grand bruit. Des personnalités ont fait placer des protégés sur la liste des admis à un concours de la santé publique alors que ceux-ci n'avaient pas obtenu des notes suffisantes ou n'avaient même pas passé les épreuves. L'imprimeur du journal Le Courrier, Soumana Idrissa Maïga, par ailleurs journaliste et patron de presse, a été placé en garde à vue lundi. Une arrestation qui fait suite à la détention depuis samedi d'Ali Soumana et de Moussa Dodo, propriétaire et directeur de publication du même journal. On accuse les journalistes de publication de documents parce qu'ils ont fait paraître les facsimilés des listes envoyées par des personnages éminents de la société nigériane aux directeurs des administrations des agents de la santé publique. Dans la liste des personnes soupçonnées d'avoir influencé les résultats des concours, il y a la première dame, la présidente de la Cour constitutionnelle, le chef d'état-major général des armées et le ministre du Pétrole, souligne Reporters sans frontières.
Nigeria, les vengeurs du Delta du Niger, NDA, groupe rebelle nigérien ayant mené plusieurs attaques contre des installations pétrolières depuis février, ont rejeté aujourd'hui l'offre de pourparlers proposée lundi par le gouvernement nigérian. Dans un message sur leur compte Twitter, le secrétaire d'État pour les ressources pétrolières, Emmanuel Ibe Kachikrou, avait annoncé à la presse que les expéditions punitives contre les rebelles allaient être suspendues pour une semaine ou deux, afin de permettre à chacun de converger vers le dialogue. Et pour terminer, la crise migratoire, un Érythréen soupçonné d'être à la tête d'un important réseau de trafic de migrants a été extradé depuis le Soudan vers l'Italie. C'est ce qu'annonce la police. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.